tous, nous sommes des étudiants de BUT Carrière Sociale. Dans le cadre de notre formation, nous devions réaliser un podcast. Pour ce podcast, des professionnels de l'animation socioculturelle nous a été attribués. Nous devions donc, avec notre groupe, interviewer Luis Letoré, qui est le directeur de la maison de Courcelles. Je vous laisse avec le podcast et je vous souhaite une très bonne écoute.
On va vous poser des questions du coup sur le métier. Donc la première, c'est pouvez-vous nous expliquer vos missions en tant qu'animateur du coup à la maison de Courcelles?
Ouais, moi je suis le directeur de l'association. En fait, moi j'ai une délégation de pouvoir du conseil d'administration qui m'autorise à gérer le quotidien de cette association, de prendre les responsabilités qui sont liées aux ressources humaines, donc à l'embauche et au suivi de l'équipe de salariés, mais aussi à mener à bien le projet éducatif de l'association. Donc ça se traduit au quotidien par accompagner les équipes de salariés, mais aussi mener les réflexions stratégiques liées à l'association et veiller à ce que le projet éducatif soit respecté, qu'il n'y ait pas de dérive.
Quels sont pour vous les points forts de cette profession et les points faibles aussi?
Pour moi, les points forts, c'est une très grande polyvalence. Ça nécessite à être dans de la maîtrise, que ce soit la gestion du bâtiment, la gestion des ressources humaines, la gestion du cadre réglementaire, administratif, financier, d'une structure associative. Donc ça demande une vraie polyvalence, de pouvoir faire des choses très concrètes, voilà, comme pouvoir être aussi en contact avec des élus au quotidien, ou des personnes décideuses du territoire. Et puis après, ben, les points faibles, c'est très chronophage. Voilà. C'est plus que 35 heures semaine.
Pourquoi ou pour quelles raisons vous avez choisi de travailler dans l'animation socioculturelle?
Alors, moi, j'ai une formation, j'ai un master en STAPS. Je devais m'orienter vers les métiers du sport et j'ai découvert l'éducation populaire. Voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est le contact entre les contacts entre personnes, la possibilité des rencontres et puis surtout la capacité à monter les projets et à les mener à bien. Et plus spécifiquement dans ce travail aussi, c'est quelle place on donne aux enfants, là où ils sont très clairement invisibilisés partout dans notre société. L'éducation populaire est peut-être le lieu où on donne la possibilité aux enfants d'être acteurs de leur propre vie.
Quel effet cela vous a-t-il fait d'arriver dans une structure aussi unique de par sa pédagogie axée notamment sur la liberté du coup?
Ouais, c'était assez complexe parce qu'il faut du temps pour pouvoir maîtriser ce qui se passe dans cette maison. Donc c'était assez enthousiasmant de participer à ce projet. C'était valorisant aussi beaucoup par rapport aux personnes qu'on accueille dans la maison et puis les retours qu'on pouvait avoir de leur satisfaction à y passer du temps. C'était quand même une vraie pression parce que y a beaucoup de monde qui a travaillé dans cette maison avant et il fallait ne pas oublier qu'il y avait des personnes qui avaient bâti tout ce qui se passait avant que j'arrive et que je n'étais que l'héritier et un passeur. Voilà.
Ok, et du coup, vous avez réussi à vous adapter assez facilement quand même?
Mais on n'a pas le choix. En fait, la difficulté quand on arrive dans ce type d'organisation, c'est qu'il n'y a pas de sas de prise de repère, c'est qu'on est tout de suite mis dans le bain. On se retrouve tout de suite en situation de gérer tout ce qui ne fonctionne pas, les éléments conflictuels, enfin tout ce qui peut être de l'ordre du problème. Et c'est parce qu'on va régler les problèmes constamment qu'on va maîtriser ce projet. Il n'y a pas de recette en fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Mais moi par exemple, quand j'ai commencé, au bout d'une semaine, on m'a mis en cuisine en me disant que je devais faire à manger pour 120 personnes. Voilà, j'ai pas eu le temps de réfléchir s'il fallait que je le fasse ou pas. Il fallait le faire en fait.
Faut se lancer.
Voilà.
Je voulais dire, je suppose que quand vous êtes arrivé dans la structure, vous n'avez pas tout de suite été mis au poste de directeur, vous êtes passé par plusieurs postes.
Ouais, j'ai été embauché comme un animateur polyvalent pendant de 2009 à 2011. Je faisais à manger, je faisais des directions de colo. Je faisais de l'accueil dans la maison, je participais à toute la vie quotidienne de cette maison pour pour contribuer à la qualité de l'accueil. Après, j'ai été directeur adjoint responsable pédagogique pendant 3 ans. Voilà. Et ensuite, j'ai pris la direction en 2014.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix de pédagogie et quels sont les objectifs du coup à atteindre dans cette maison ?
Alors, le choix de la pédagogie, si on rentre dans les concepts, on est dans le personnalisme communautaire. C'est-à-dire que cette pédagogie, elle n'a de sens parce qu'on considère l'enfant comme étant capable et compétent. Mmh. Et on part de l'enfant. C'est-à-dire que jamais on va considérer le collectif comme immense sur la personne. Ça nécessite à ce qu'on fasse connaissance avec chaque enfant, chaque personne, qu'on connaisse les personnes qui sont dans la maison pour pouvoir les encourager à se retrouver en situation de co-gestion. Donc, d'où la question de la richesse de la rencontre et des échanges, c'est qu'on est obligé de faire avec les gens. On ne peut pas accueillir du public à la maison Cosselle, des personnes, des enfants, en se disant qu'il y a des personnes qui sont payées pour faire l'accueil et d'autres qui sont là pour consommer ce dont elles ont payé. Et il y a des échanges forcément monétaires, mais l'objectif, c'est de se retrouver en co-gestion, donc de partager les contraintes de cette maison et d'accompagner la responsabilisation des personnes, enfants, adultes, qui sont dans la maison. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup plus complexe qu'un fonctionnement classique, parce que ça nous oblige à se re-questionner régulièrement sur nos pratiques, à réexpliquer, à donner du sens aux consignes ou aux cadres que l'on propose aux personnes accueillies, enfants comme adultes. Donc ça, voilà, ça nécessite beaucoup de, ce que je disais, de remise en question, mais aussi d'accepter que quand on parle de personnalisme, c'est-à-dire qu'on doit adapter notre manière d'être selon la personne qui est en face de nous, que ce soit un enfant, un adulte, un bénévole, un salarié en insertion. Hein, on va pas présenter la maison de la même manière, on va pas présenter on ne va pas leur donner la possibilité de co-gérer de la même manière. Voilà. Donc, c'est ce projet qui est proposé pour les enfants en colo. Voilà. C'est-à-dire que les enfants, ils arrivent en colo, il y a un cadre qui est proposé par les adultes. Le cadre, souvent, c'est les espaces permanents, hein, ce que j'avais présenté pendant la présentation, un espace cirque, un espace trappeur, un espace salle de jeu. Et puis, derrière, les enfants ont la liberté de circuler, mais pas sous n'importe quelle condition. Il faut qu'ils... Souvent, les règles qu'on donne, c'est se respecter soi, respecter les autres et respecter la maison. Voilà. Et après, bon, ça casse avec certains qui ont besoin de plus de temps.
Que l'organisation stricte des encadrants, elle engendre des contraintes. Enfin, elle en engendre forcément, mais lesquelles ?
Elle engendre des contraintes dans l'idée que les animes, quand ils arrivent à la maison de Courcelles, ils ont une perception de ce qu'est l'animation qui n'est pas forcément de ce qu'on propose à la maison de Courcelles. Donc souvent, ce que je disais dans la présentation, je crois que je l'ai dit, on passe du temps à déconstruire. On passe du temps à déconstruire dans l'idée qu'un anime a un groupe d'enfants. C'est jamais le cas à la maison Courcelles. Vous n'avez pas un groupe d'enfants attitré à un anime. Oui. Et donc, vous avez des animes qui ont du mal à se situer dans cette organisation ou qui ressentent des difficultés à mesurer les compétences qu'il faut pour pouvoir se retrouver en situation d'animation. Exemple concret, vous avez des animes qui débarquent et qui nous disent « Mais nous, on ne sait pas jongler. Comment on peut aller dans l'espace cirque ? On ne sait pas servir d'une scie sauteuse. Comment on peut aller dans l'espace bricot ?» Voilà. Okay. Donc ça, c'est des limites que l'on rencontre. Après, derrière, l'accompagnement par les pairs aide ces nouveaux animes qui débarquent pour leur faire prendre des repères et leur donner confiance en eux pour qu'ils puissent ensuite derrière se retrouver en situation d'animation sans difficulté. Mais ça peut être long, c'est pas forcément une colo. Quelquefois pour certains c'est plusieurs colos pour trouver un sens.
Et moi je voulais savoir, est-ce que ça vous arrive qu'il y ait des enfants qui n'adhèrent pas du tout au fonctionnement et avec qui ça ne fonctionne pas du tout en fait?
Ouais, ça arrive, et ça, c'est des fautes un peu de notre part. Enfin, de notre part. C'est soit des fautes soit des parents, des travailleurs éducatifs ou de l'équipe de la maison de Courcelles, parce que ce type de projet nécessite en amont un vrai travail d'interconnaissance. J'ai dit tout à l'heure, on doit connaître les enfants, on doit expliquer le projet. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que les enfants n'adhèrent pas à ce qui leur est proposé, souvent, c'est parce que soit on les a forcés à venir. On ne leur a pas laissé le choix, on ne leur a pas expliqué et ils se retrouvent en situation d'échec. Donc, d'où l'importance que l'échec que rencontrent les enfants et de la responsabilité des adultes. Donc, comment ça se traduit? Vous pouvez avoir des enfants qui n'ont jamais la possibilité de choisir ou décider à la maison, ou dans leur centre, dans leur foyer, ou dans les familles d'accueil. C'est-à-dire que ça, c'est d'une violence. C'est une violence assez symbolique d'expliquer à des enfants qu'ils peuvent choisir quand ils n'ont jamais pu choisir dans leur vie. Ils ne savent pas. Ils se retrouvent avec une forme de handicap social et de relationnel. Donc ça nécessite un vrai accompagnement, des fois, un enfant pour un adulte, de les aider à pouvoir définir ce qu'ils veulent faire et de ne pas attendre que des adultes qui décident à leur place. Et puis, vous avez aussi des enfants qui peuvent se mettre en danger. Et ça, d'où l'importance de bien préparer en amont. On a des gamins qui peuvent avoir des troubles et qui nécessitent une présence d'adultes vraiment plus conséquente parce que bah, ils peuvent se mettre en danger. Parce que la notion du risque et du danger pour eux, elle n'est pas assez claire, pas assez clairement définie. Hein. Donc, on a des que ce soit des handicaps où je parlais de troubles, hein, des troubles de l'anxiété, des troubles d'hyperactivité, des voilà tout ce qu'on entend, les TDAH, les TDL, voilà. Et donc ça c'est et ça existe. Nous, ce qu'on souhaite faire le plus possible, c'est les anticiper pour travailler avec les pour mettre en place le cadre pour que ces enfants un peu atypiques puissent quand même trouver leur place à la maison de Courcelles.
Et justement, ces enfants qui se mettent en danger, comment vous faites pour les encadrer plus précisément? Est-ce que vous gardez le même principe de mettre des animateurs dans chaque pièce où les enfants peuvent aller, ou il y a un ou une animateur, une animatrice qui va être avec l'enfant constamment 24 heures sur 24?
Ouais, bah, ça peut être ça. Voilà. On va vraiment adapter à la situation, mais nous, notre fonctionnement nous permet de pouvoir détacher un anime qui va prendre plus de temps avec un enfant, être plus présent auprès de lui. Là où peut-être on pourrait se dire qu'il faut recadrer les enfants, nous, c'est une vraie chance. En fait, on lui donne une possibilité à cet enfant d'être encore mieux accompagné dans le cadre de ses vacances. Alors, ça peut être vachement intrusif, hein, et ça, on en est conscient. Je reviens sur la notion d'affect. Nous, on a des auxiliaires de vie. Quand on a identifié en amont de la colo qu'un enfant ne peut se retrouver en situation de difficulté pendant la colo, donc on prévoit un adulte supplémentaire qui va accompagner l'enfant. Mais on a aussi cette question d'affect qui fait qu'à un moment donné, peut-être que le gamin ne pourra plus sentir l'adulte et peut-être que l'adulte ne pourra plus sentir le gamin. Donc la règle que l'on se donne à la maison de Courcelles, c'est que c'est l'équipe qui accompagne cet enfant atypique ou remarquable. Certes, il y a des adultes qui peuvent être mis à disposition en plus, mais c'est d'abord un souci de l'équipe pour pouvoir être le relais de l'anime qui est plutôt auxiliaire de vie quand la situation devient compliquée avec l'enfant parce que soit problème d'affect, soit problème de fatigue, soit à un moment donné, on peut se retrouver nous en tant qu'adultes en difficulté, on a tout essayé mais ça ne fonctionne pas. Ben, heureusement, il y a un travail d'équipe quand même qui peut prendre le relais avec une autre personne qui peut de manière ponctuelle réintervenir. Donc, en amont de la colo auxiliaire de vie, ou pendant la colo, ce qu'on appelle l'animateur dispo, l'animatrice dispo, qui va se dégager par le cordeau qui va lui demander de prendre en charge un gamin qui, de manière ponctuelle, peut rencontrer des difficultés dans ce projet. Un constat, pour nous, l'enfant n'est jamais... Et en fait, on ne distingue pas la vie quotidienne de l'animation. D'accord ? C'est-à-dire que l'enfant est en activité de son lever jusqu'à son coucher. C'est-à-dire que tout est activité. Tout est animation. Et l'animation socioculturelle, comme on peut la définir peut-être, c'est cette idée que il y ait des personnes, des animes, qui soient là pour accompagner les enfants dans un cadre pour leur faire découvrir peut-être de nouvelles choses. Nous, très clairement, notre ambition, c'est pas de faire découvrir de nouvelles choses aux enfants. Hein. Notre ambition, c'est qu'ils passent de bonnes vacances. Mais par l'organisation qui est proposée, forcément, quand on va amener un espace art du spectacle, un espace bricolage, un espace trappeur, et des artistes en résidence dans la maison, et un chantier d'insertion alimentation, une cuisine pédagogique, il y a forcément des terrains de découverte qui sont proposés aux enfants. Donc, là, on peut faire écho à ce que disait Maria Montessori hein, sur l'idée qu'il faut saisir les périodes un peu sensibles des enfants et saisir les opportunités. Donc là, nous, on va être plutôt dans une posture au niveau des animes à identifier quelles sont les envies des enfants ou ce qui fait un petit peu écho en positif dans ce qu'ils ont vu à la maison de Courcelles pour se dire on va leur donner la possibilité d'aller à fond dans leur passion, à fond dans leur envie de découverte. Donc là, oui, clairement... On se situe sur de l'animation socioculturelle dans ce projet-là.
grands vont d'eux-mêmes aller aider les plus petits ou ils sont vraiment séparés?
Alors, il y a deux modes de fonctionnement bien différents. Sur l'été, par exemple, on a une colo 4-7 et une colo 6-12 qui sont dans deux parties de la maison, une seule et même maison, hein, et deux parties plutôt réservées à ces deux colos, mais on a une salle de jeu commune. C'est-à-dire que la salle de jeu, elle est partagée entre la colo des 4-7 et les 6-12, et les équipes sont très disponibles l'une vers l'autre parce qu'on a souvent des fratries qui sont accueillies. Donc, le grand frère qui est chez les grands, la petite sœur qui est chez les petits. Et souvent, les gamins, ils ont envie de se voir. Donc, il faut qu'on permette aux petits de pouvoir aller chez les grands et les grands de pouvoir aller chez les petits. On s'est rendu compte aussi que les enfants qui avaient des trajectoires à la maison de Courcelles, c'est-à-dire qu'ils ont pu faire des colos en tant que petits, puis maintenant qu'ils sont un peu plus grands, qu'ils sont dans l'autre colo, ils aiment par nostalgie aller retourner faire un petit tour chez les petits. Voilà. Et ça, Maria Montessori, elle le dit aussi dans les maisons qu'elle crée, hein. C'est des maisons, hein, Maria Montessori, c'est comme nous on s'appelle Maison Courcelles, mais Maria Montessori, elle crée aussi des maisons où l'idée, elle dit que les petits vont accompagner les grands à grandir et les grands vont accompagner les petits aussi à grandir. Et il y a ces allers-retours, c'est-à-dire que les enfants ont des phases de dans leur développement, ils ont des phases de régression. Ils sont normales. Pour pouvoir assimiler et toutes les compétences nouvelles ou savoir-faire ou relations sociales qui rencontrent, ils régressent. C'est pas anodin de voir des fois des grands jouer avec des jouets de tout petits. Mais en fait, voilà, c'est hyper important aussi que les enfants ils aient la possibilité de se retrouver dans un monde de plus petits. Et les plus petits, ils adorent aller faire chier les plus grands. Donc voilà, régulièrement, les petits partent en expédition pour aller emmerder les grands sur la colo. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien. Donc ils vont souvent piquer du matos ou simplement aller jouer chez les grands. Donc eux, ils ont l'impression d'emmerder. Hein. Ça n'emmerde pas forcément les grands, mais ils ont quand même un malin plaisir à pouvoir le faire parce qu'il y a un petit peu un caractère transgressif de se dire « Allez, tiens, je vais faire quelque chose qui est pas forcément autorisé. Voilà. » Donc ça, c'est quand même hyper encadré par nos animes. C'est souvent eux qui sont à l'initiative de ça pour les petits. Voilà, pour pas que ça devienne n'importe quoi.
J'espère que ce podcast vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur la maison de Courcelles et de toutes ses particularités. Maintenant que ce podcast est fini, nous tenons à remercier Louis Létouré qui a pris du temps pour nous, pour qu'on l'interviewe et qui réponde à toutes nos questions.